Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire et la culture du judaïsme. Comment les intellectuels deviennent des tueurs de masse? C'est un peu la question que pose notre invité Christian Ingrao dans le livre qu'il vient de faire publier aux éditions Fayard et qui est issu de la thèse qu'il a soutenue en 2001. Dans ce travail, il suit le parcours de 80 hommes issus d'une génération de jeunes intellectuels, nés entre 1900 et 1910, et qui, munis de leurs diplômes, se sont retrouvés parmi les cadres dirigeants des organes de répression du Troisième Reich et à la tête des Einsatzgruppen, ces unités de police mobile qui ont tué plus d'1,5 million de juifs par balle entre 1941 et 1942. Ce livre va en quelque sorte contre cette idée reçue, rassurante, que la culture et les humanités préservent de la barbarie. Christian Ingrao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Ce livre qui s'intitule « Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS » est donc issu de votre thèse. Il aborde un thème mieux diffusé dans le grand public depuis le succès du roman « Les Bienveillantes » que vous évoquez dans votre introduction, donc celui des Einsatzgruppen, et décrit un homme qui pourrait être un de ces intellectuels que vous étudiez dans votre livre. Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes venu à l'époque, il y a 10 ans, comment vous est venue cette idée de travailler sur les intellectuels de l'ASS?
Écoutez, d'abord, l'idée m'est venue beaucoup bien avant, en fait, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ces hommes en 96. Et en fait, l'idée est venue de ces publications un peu dégradées qui sont les numéros d'Historia consacrés à l'ASS, aux Einsatzgruppen des années 70-80, dans lesquels déjà sont mentionnées la participation des intellectuels au meurtre de masse. Et cette idée, comme exactement maintenant, allait contre mes idées reçues. J'étais jeune et un peu naïf, et je pensais que oui, en effet, les humanités pouvaient protéger contre l'inhumanité, et que dalle.
Vous insistez dans votre ouvrage sur le rôle matriciel de la Grande Guerre dans la construction intellectuelle et personnelle des Allemands de cette génération, donc celle de ces hommes qui sont trop jeunes pour avoir combattu. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le contexte dans lequel ont grandi ces 80 personnes que vous décrivez dans votre livre?
Écoutez, ils naissent entre 1900 et 1910, donc ils ont entre 14 et 10 ans au moment où commence la Grande Guerre. La Grande Guerre, il faut le rappeler, c'est entre 3000 et 3500 morts par jour pour l'Allemagne. C'est un phénomène de mort de masse qui est absolument inédit depuis la Grande Peste de 1348. Et pour répondre à ce traumatisme absolument massif, et ce d'autant que la mort est subversive, c'est plus la mort des vieillards qui ont eu le temps de dire au revoir, c'est celle des hommes jeunes, ceux qui auraient dû faire la vie, ceux qui auraient dû former des couples. Et donc, pour répondre à cette mort de masse, les sociétés européennes, pas seulement l'Allemagne, développent des cultures de guerre qui sont censées donner sens à ce conflit. Pour donner sens au conflit, il faut deux choses. Il faut d'abord développer une image de l'ennemi qui donne les véritables enjeux du conflit. L'ennemi est tellement malin, tellement diabolique, tellement déshumanisé que c'est bien toute la sécurité de la communauté qui est mise en cause. Et de l'autre, c'est une guerre tellement inhumaine que de cette guerre ne peut sortir que la fin de la guerre. Et l'avènement d'une société nouvelle. Donc on est, si vous voulez, entre d'un côté l'angoisse de type, je dirais, apocalyptique ou eschatologique, et de l'autre, devant l'utopie.
Donc voilà, si vous parlez d'une société qui se brutalise, et dans votre introduction, vous écrivez « Ils étaient beaux, brillants, intelligents, cultivés, et ils sont responsables de la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes ». Donc au-delà de cette phrase un peu provocatrice...
À peine.
Finalement, c'est le parcours d'universitaires diplômés pour 60% de ces 80 personnes que vous suivez, munis d'un doctorat pour 30% d'entre eux. Ils sont juristes, économistes, historiens, spécialisés en lettres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du parcours universitaire dans ces universités des années 20, des universités qui vont se radicaliser avant même l'arrivée d'Hitler au pouvoir?
Bien avant. Ce dont on s'aperçoit quand on regarde un petit peu, quand on essaie de faire son historien politique et qu'on regarde les élections étudiantes qui sont bien plus suivies qu'en France à l'heure actuelle des universités allemandes, on s'aperçoit que à ce moment-là, entre 19 et 21, a lieu un renouvellement des personnels des instances d'administration des universités qui sont tenues par les associations étudiantes. Ce dont on s'aperçoit, c'est que donc ces associations d'étudiants mettent en place des élections qui vont être gagnées par des associations, moi j'appelle ça ethno-nationalistes, Völkisch on dit en allemand. Je traduis ça par ethno-nationaliste parce que ça rend bien plus Völkisch, ça veut dire populiste. Moi, j'essaye de rendre compte de la dimension biologisante de ce nationalisme entre 1919 et 1921. La principale question, c'est évidemment comment, quelles sont les conditions qui doivent être préalables à l'entrée dans ces associations. Et la condition qui fait l'objet des débats les plus véhéments, c'est de fournir un arbre généalogique. En gros, qui sont visés ? Ce sont les Juifs. Hein, dès 1919-1921, vous avez plus de 66% des élus de ces organes de gestion des universités qui sont issus de listes. Et quand on regarde le taux de participation, c'est 80%, on s'aperçoit que c'est plus d'un étudiant sur deux, donc plus d'un membre des élites sur deux qui est déjà nationaliste, ethniciste, radical et antisémite. Ça pose vraiment la question de quel avenir peut avoir la République de Weimar quand les gens sont déjà décidés à la battre.
Oui, donc vous décrivez bien finalement ces universités qui vont finalement peu à peu nazifier les sciences humaines, et donc au sein de ces associations entre autres. Et est-ce que vous pouvez quand même nous remettre un peu dans l'ambiance de ce climat particulier, puisque vous dites même dans votre travail que finalement il n'y a pas de rupture, on peut dire, entre 18 et 39. Une rupture que nous, on sent beaucoup plus dans la culture française et qui n'a pas du tout lieu d'être.
Quand on veut essayer de remettre dans l'ambiance, dans les années, on va dire 90-2010, quand on est dans une université française, être cool, c'est être à gauche. En 1918-1921, être cool, c'est être nationaliste, radical et antisémite. C'est les gens les plus beaux, les plus attractifs, les plus séduisants, etc., etc. Ce sont des jeunes hommes qui ont une coupe qui est celle de l'époque, hein, qui est une petite raie à droite, un petit balayage, les tempes rasées et une cravate avec une swastika. C'est eux qui vont séduire les jeunes femmes, qui vont avoir les réseaux les plus importants et qui, quand ils parlent, les gens s'arrêtent pour les écouter.
Et donc oui, vous montrez bien, Christian Ingrao, quand on suit votre raisonnement, que ces intellectuels donc, ont finalement intégré la volonté d'en découdre, la volonté de se venger après cette défaite de la Première Guerre mondiale, et que la plupart vont entrer toujours bien avant l'avènement du nazisme, au SD. Est-ce que vous nous expliquez d'abord ce qu'est donc bien sûr le SD, qui apparaît tout au long de votre travail, ainsi que le RSH.
Voilà, le RSHA.
Et donc nous montrer comment finalement il s'engage très vite dans des instances nazies.
Alors, la question elle est un peu compliquée parce que vous avez essayé de concentrer un peu tout. Ils n'essayent pas de se venger. Ils disent simplement « la guerre n'a jamais cessé ». La guerre, elle n'a jamais cessé. Elle commence en 1914, mais le 11 novembre 18 n'est rien pour eux. Rien. Le traité de Versailles, c'est une sorte de document de papier totalement factice qui dit « on va finir la guerre », mais pour eux, la guerre ne s'est jamais arrêtée. Le 11 novembre 1918, en France, que font les gens ? Eh ben, ils rentrent dans des casernes, ils mettent l'armoire atelier, ils retrouvent leurs vêtements de 1914 avec des billets de banque qui ne valent rien, et ils rentrent chez eux. Et alors qu'ils avaient pensé que c'était la dernière guerre, eh ben non, c'est juste la merde, comme d'habitude, comme c'était avant, et encore pire même. En Allemagne, on leur a répété pendant 4 ans, comme en France. Mais on leur a répété pendant 4 ans que de cette guerre devait sortir soit l'utopie, soit la mort quasi physique de l'Allemagne, et la sortie de guerre de l'Allemagne vérifie cela. C'est-à-dire que le 11 novembre 1918, vous avez 10 millions d'hommes qui rentrent avec des fusils. Et donc ça répand la brutalité dans le corps social allemand. Et d'un autre côté, vous avez des soulèvements polonais en Poznanie, en Silésie, des révolutions communistes à Berlin, en Thuringe, dans la Ruhr, etc., etc. Et des soulèvements séparatistes très nants. Donc d'une part, si vous voulez, on a deux choses qui sont complètement différentes. D'un côté, un discours qui est invalidé du côté français et anglais. Et de l'autre, une culture de guerre qui apparaît dans toute sa véracité aux yeux des Allemands entre 1918 et 1924. Totalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que de 1914 à 1924, les Allemands n'ont pas l'impression de sortir de la guerre. Et après 1924, le militantisme nazi va apparaître comme une continuation de la guerre avec des armes politiques. C'est ce qui fait que les militants, que sont les intellectuels de nazis, vont se précipiter, les uns au NSDAP, les autres dans la SS. En second lieu, Ces étudiants ont commencé très souvent leur militantisme bien avant et ont une image assez mitigée du nazisme. Ce sont des gens qui sont issus des élites, qui sont très cultivés et qui trouvent que les abrutis au crâne rasé avec leur flingue et leur batte de baseball, qui, de la SA, sont vraiment pas fréquentables. Il n'empêche que dans le NSDAP, il y a la SS et il y a le SD et le RSHA, qui apparaît en 39-40, et qui vont satisfaire à cet idéal élitaire. Les hommes dont on est en train de parler vont passer leur doctorat et par l'intermédiaire de leurs profs, d'un certain nombre d'aînés étudiants, vont adhérer au Sicherheitsdienst, service de la sécurité de la SS, qui est, si vous voulez, une espèce d'équivalent à la fois de ce qui est maintenant la DCRI, ancienne DST en France, le contre-espionnage, et en même temps un équivalent de l'INSEE. Et de tous ces comités d'experts économistes qui existent à l'heure actuelle en France. C'est l'INSEE, un institut de sondage et la DCRI. Et donc ces hommes vont accomplir au sein du SD un double travail qui va être un travail de lutte par le renseignement contre ceux qu'ils présupposent être leurs ennemis, sociodémocrates, communistes, francs-maçons, homosexuels, évidemment juifs, et Tzigane, mais ils ont l'impression de faire un travail théorique de lutte contre ces gens-là, d'un côté, et de l'autre, ils vont mettre en place un travail d'approfondissement doctrinaire extrêmement important de l'idéologie nazie.
Alors, ce qui est très intéressant, Christian Grau, dans votre livre, c'est qu'on a donc souvent, comme je l'ai évoqué, pour se rassurer, l'image de nazis hostiles aux intellectuels. On a ces images de bûchers de livres, de procès faits à l'art dégénéré, entre autres. Mais vous montrez bien, à travers ce groupe de 80 intellectuels, que les nazis avaient besoin de ces intellectuels pour légitimer, scientiser et mettre en place leur discours.
Oui, et ces hommes ont été d'autant plus déterminants dans la Martyrgreifung, c'est-à-dire la prise de pouvoir, que la prise de pouvoir intervient sur une escroquerie. C'est-à-dire que les conservateurs un peu nationalistes qui tiennent le pouvoir en 1933 se disent « Bon, d'accord, le nazisme, les nazis sont la première formation électorale, on va les appeler au pouvoir et ils n'ont pas les moyens de l'avoir ». Seulement, ce dont ils ne s'aperçoivent pas, c'est que derrière les pseudo-abrutis que sont Hitler, Heuss, Göring, etc., etc., il y a toute une génération de gens qui sont bien rasés, bien coiffés, avec une cravate, un doctorat, qui savent déjà comment fonctionne une bureaucratie et qui sont prêts à assurer le quotidien du pouvoir. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que ces hommes ne sont pas seulement des apprentis bureaucrates qui savent très bien faire marcher une machinerie étatique. Ils sont aussi prêts à la radicaliser, rationnellement. C'est-à-dire que ils se présentent comme étant la dimension rationnelle et étatique de cet antisémitisme écumant qu'on voit apparaître en 1933, 1934 contre les Juifs, et puis bien plus tard, évidemment, en 1938.
Et donc, ils vont être parmi ceux qui vont mettre en place ce plan de colonisation de l'Est, c'est-à-dire de mise en place d'un grand Reich allemand où la race nordique donc, serait dominante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ils ont participé justement à ce grand plan ?
Alors, ça, c'est une autre question. C'est parce qu'on change complètement de configuration. On n'est plus en 1933-34, on est en 1940. Les nazis ont vaincu la Pologne, ils sont en train de vaincre la France, ça veut dire que toutes les conséquences de la Première Guerre mondiale ont été effacées, toutes les conséquences de cette guerre qui n'avait pas été gagnée à ce moment-là, maintenant c'est fait. Et en 1940, le Führer, en octobre 1940, donne un ordre qui est extrêmement lourd de conséquences, qui est « il y a des territoires qui doivent être germanisés immédiatement ». Et donc, parmi les intellectuels nazis dont on est en train de parler, il y a des juristes, mais il y a aussi des géographes, des sociologues, des raciologues, des historiens. Et ces gens-là vont mettre en place un plan avec une clé qui est extrêmement importante à comprendre, c'est nous devons germaniser et donc déplacer des populations, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient polonais. Et la clé, le ratio de remplacement, c'est pour une famille d'Allemands ethniques qui vont revenir d'Europe de l'Est, il faut en déplacer 4. Et donc, s'ensuit, c'est Goetz-Sally qui a employé ce terme que je trouve très bon, un jeu de domino ethnique qui va avoir des conséquences mécaniques extrêmement importantes. C'est-à-dire que les autorités d'occupation en Europe de l'Est locale les autorités locales, pardonnez-moi, vont d'un côté mettre en place des familles qui ne connaissent pas les terroirs et qui donc ne peuvent pas produire de denrées alimentaires, et de l'autre, expulser des gens qu'ils vont ghettoiser en ce qui concerne les populations juives, tout en mettant en place une politique antisémite qui exclut les juifs de la vie économique. La conséquence de tout ça, c'est 1. On ne produit pas assez dans les territoires occupés. 2. On a des concentrations faramineuses de juifs dans les ghettos auxquels on a enlevé tout moyen de subsister. Dès 1940, mécaniquement, la mortalité des juifs commence à monter de façon pharaonique.
Et donc, dans la troisième partie de votre livre, Christian Ingrao, qui s'intitule « Nazisme et violence, le paroxysme », vous abordez le rôle de ces intellectuels sur le terrain. Donc là, on avance toujours dans le temps. Donc on arrive en 1941, donc plus précisément dans ce qu'on appelle désormais la Shoah par balle. C'est comme ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est un terme pourri, mais c'est le terme, en tout cas, que tout le monde comprend bien aujourd'hui. On pourrait débattre sur ses raisons, mais ce serait un autre débat.
Ne perdons pas de temps.
Voilà. Donc il faut rappeler que ces unités des Einsatzgruppen, ces unités de police mobile, ont suivi les troupes dans leur avancée sur le front de l'Est pour déplacer, éliminer les populations juives et communistes, pour installer donc ces futures colonies. Alors il faut imaginer, vous le dites dans le livre, c'est abstrait, mais ça quand même, ça parle. On imagine que pendant 6 mois, on devait tuer une personne par jour pour arriver finalement au nombre incroyable de personnes qui ont été assassinées pendant ce rôle. Pendant ce temps, quel était le rôle et la place de ces intellectuels dans cet épisode tragique de l'avancée du nazisme?
Alors, il faut commencer par rappeler que les hommes qui vont peupler les Einsatzgruppen, d'abord, sont tout sauf des intellectuels. La plupart du temps, ce sont des policiers, des gens qui viennent des classes populaires modestes allemandes, très souvent des gens non politisés. Qui intègrent la police criminelle et la police secrète d'État, mais à des rôles qui ne sont pas politiques. La plupart du temps, c'est des chauffeurs, c'est des gens qui font de la radio. Il y a plein de femmes qui sont des secrétaires, etc., etc. Les intellectuels SS vont être l'encadrement de tout cela. Et tous ces hommes, intellectuels SS compris, ne savent pas ce qu'ils vont faire quand ils arrivent en Russie. Seulement, ils s'aperçoivent très vite, je passe sur les raisons pour lesquelles ça se passe, mais ils s'aperçoivent très vite que, ils ont des ordres qui leur donnent, qui les obligent à exécuter automatiquement un certain nombre de catégories de population. 2, la façon dont se passe l'expérience de l'arrivée en Russie leur donne envie de le faire, les amène à consentir à ça. Et 3, la radicalisation de la politique va faire que les intellectuels SS vont avoir un rôle d'encadrement et d'accompagnement dans cette radicalisation. Au début, ces hommes qui n'ont jamais tué vont devoir tuer des gens qu'ils identifient comme des tortionnaires au service du NKVD et des juifs qui sont censés avoir manipulé ces gens. Très vite, cette rhétorique va les amener à tuer de 10 personnes par jour à une centaine de personnes par jour et par commando. Ensuite, à partir de juillet 1941, ils adjoignent des femmes. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que les intellectuels SS essayent d'habituer ces gens-là à le faire? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que le nombre de groupes, l'effectif des groupes est devenu tellement grand que, de toute façon, on les fait passer comme ça, on ne s'aperçoit même pas que ce sont des femmes? Je ne saurais pas vous répondre. Il n'en reste pas moins que le 16 juillet 1941, à Rokiškis, en Lettonie, les Einsatzgruppen mettent en place un saut qui est déterminant, qui est ils se mettent à tuer des femmes et des enfants. Et cette fois-ci, c'est en masse. Il n'y a aucune progressivité dans le meurtre. Et le rôle des intellectuels SS va être d'essayer de leur donner, de donner à ces hommes les arguments rhétoriques pour essayer de consentir à tout ça. L'un des hommes dont je suis en train de vous parler, Bruno Müller, le 16 juillet 1941, il réunit son commando, on est à Tijina, en Bessarabie, il donne l'ordre à ce moment-là à ces hommes d'adjoindre les femmes et les enfants au massacre, et pour montrer ce que ça doit être, il se fait amener une femme juive et son nourrisson, et il les abat de sa main à ce moment-là.
Oui, donc vous montrez finalement comment ces hommes ont su développer un discours qui a pu légitimer les projets de meurtre de masse. C'était peut-être leur rôle justement, le rôle qu'ils ont pris en main en tant qu'intellectuels.
Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé.
Et donc, vous expliquez bien que, justement, suite à cette propagande, la plupart des personnes arrivent aussi en Russie, comme vous l'avez dit, dans un état de véritable psychose, donc effectivement prêts à consentir à ce meurtre. Et pourtant, vous montrez que la mise en pratique de ces exécutions et la façon dont elles sont vécues par les bourreaux les marquent. C'est-à-dire que finalement, il y a besoin, au bout d'un moment, de mettre ces meurtres à distance. Et vous montrez bien dans votre livre, et ça, c'est assez déconcertant comme passage, comment finalement ces nazis qui ne veulent pas être assimilés à ces sauvages qu'ils exécutent mettent en place toute une espèce de rhétorique et une gestuelle. Là, on approche un peu de l'anthropologie pour mettre ces meurtres à distance et se dissocier de la sauvagerie.
Oui, c'est peut-être là la grande leçon de l'humanité de toute cette affaire. C'est que même ces gens qui consentent profondément à ce qu'ils sont en train de faire, qui veulent bien tuer des femmes et des enfants, payent le prix psychique de la chose. Ils en ressortent traumatisés. Et pour essayer de gérer le traumatisme, mettre à distance ces meurtres, essayer de payer un prix psychique moins fort, ils mettent en place d'un côté des rituels de militarisation pour dire que ça se passe comme l'exécution d'une peine de mort dans l'armée, ou alors mettent en place des stratégies d'évitement déléguant les tâches les plus pénibles, le meurtre des enfants, la manutention des corps, la crémation des cadavres, soit à des troupes russes, ou ukrainiennes, ou baltes, ou lettonnes, etc., etc., soit en fin de parcours, vers 43, à des Sonderkommando de juifs, eux-mêmes promis à la mort.
Alors vous montrez aussi, Christian Ingrao, que finalement ce passage à l'Est, pour ces intellectuels qui deviennent du coup des hommes qui à la fois ont leur part donc effectivement de théorie, puis à la fois leur part de pratique sur le terrain, finalement passe comme une sorte de rite initiatique. C'est considéré par les nazis comme un rite initiatique.
Oui, en effet. On a l'impression... Alors, on ne sait pas si c'est prémédité ou pas, mais on a l'impression que ceux qui arrivent à ressortir à peu près intacts de ce qu'ils ont fait à l'Est, connaissent des carrières plus brillantes que les autres. Les cas de ceux qui, soit le vivent relativement mal et essayent de s'en sortir, mais en prétextant une rage de dents, une maladie, une hépatite, etc., etc., vont continuer à faire des carrières à peu près normales, mais sans connaître d'avancement très fort. Et ceux qui vont avoir montré une certaine... force, entre guillemets, une certaine implication dans ce génocide, ces meurtres de masse, mais en même temps dans la lutte contre les partisans, qui va coûter aussi énormément de monde à ces territoires, connaissent des carrières beaucoup plus fulgurantes. J'en veux pour témoignage, Martin Zandberger, qui commande des commandos en Estonie et qui deviendra le dernier chef du contre-espionnage du RSHA, ou Erich Erlinger, qui devient le chef du personnel de ces organes de répression du Troisième Reich.
Donc peu à peu, ces hommes incarnent finalement la figure de l'intellectuel d'action, qui sera finalement presque un idéal mythique, puisque la plupart de ces intellectuels, une fois passés par cette épreuve du terrain, par ce moment où ils deviennent véritablement des bourreaux, ne retournent plus dans les sphères théoriques. Mmh. Et ce que vous montrez bien, c'est que malgré cette défaite qui commence à être visible, parce que là, donc, on avance dans la progression de la guerre, il y a vraiment un refus de la défaite parmi ces intellectuels qui pourtant sont très bien placés, qui ont toutes les informations et qui sont vraiment à même de savoir que l'Allemagne va vers la défaite.
Oui, mais on est dans un cas assez classique de ce que Freud appelle un déni, c'est-à-dire une espèce de refus halluciné des éléments factuels. Jusqu'en 1945, l'un des hommes les plus impliqués dans ces politiques à l'Est, qui s'appelle Hermann Behrens, qui sera pendu en Yougoslavie en 1948, exprime sa croyance dans le miracle que pourraient être les armes fabuleuses que Hitler aurait mis en place plutôt que de croire à la défaite. Évidemment, ils se mettent très tard à mettre en place des stratégies de survie pour eux-mêmes et leur famille. On peut mettre en place une nuance, c'est-à-dire que les hommes un peu plus âgés qui vont être à des postes de responsabilité un tout petit peu plus haut, eux se suicident parce que c'est leur deuxième défaite. Les intellectuels essais dont je suis en train de parler n'étaient qu'enfants, ils ne portent pas la responsabilité de 18, c'est leur première défaite, et ils font massivement le choix d'essayer de survivre.
Et alors vous montrez au terme de votre livre, donc dans la construction du discours nazi, dans ce processus de légitimation de la politique génocidaire, vous montrez bien comment finalement ces intellectuels, et c'est ce qui donne ce titre à votre livre, sont finalement des gens qui ont cru, qui étaient vraiment animés par une espèce de ferveur délirante en l'idéologie
nazie. Je dirais pas délirante. justement. Je dirais pas délirante. Le problème, c'est que quand on emploie ce vocabulaire-là, et quand on se met à employer des catégories psychiatriques qui sont de l'ordre de ce que Freud appelle la Ausschlussung, c'est-à-dire la forclusion, le délire, etc., etc., ça devient cool pour nous.
Ça nous rassure.
Ces gens sont des fous furieux et voilà. Le problème, c'est que quand on essaye de sortir des catégories délire, rationalité, etc., etc., on s'aperçoit que oui, en effet, il y a une histoire possible de la croyance, de la ferveur, de l'ineffable, qui fait qu'on peut essayer de sortir de cette histoire-là. On n'arrive plus à comprendre ce qui leur est passé. Ces gens, et c'est ça qui est terrible. Ces gens pensaient faire le bien en tuant des femmes et des enfants.
Alors merci Christian Ingrao. Je rappelle que votre livre s'intitule « Croire et détruire, les intellectuels dans la machine de guerre SS » et qu'il est paru aux éditions Fayard. C'était « Mémoire vive », une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Trois adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.